Salut, salut les gars. Très content de vous retrouver pour cette émission spéciale en prévision de l'Omnium Billie Jean King. Vous excuserez ma voix un peu endolorie. Et pour ça, on a invité Nicolas et Abraham pour qu'ils puissent prendre un peu plus de place. Salut les boys. Bienvenue à cette émission spéciale. Merci pour votre travail une fois de plus et merci de vous joindre à nous en ondes. Nico et Hugues, comment vous portez-vous en cette journée d'Halloween pluvieuse?
Ça va bien pour une fois que je suis pas dehors parce que là, il pleut. C'est vraiment, vraiment, vraiment le... J'ai poussé ma limite à être dehors, mais là, on est à l'intérieur. On est bien, l'Halloween, petit dimanche d'automne, on parle de tennis. Ça peut pas mieux aller.
Journée de clôture de piscine chez moi et... lors de la clôture et du vidage de la piscine, on a inondé le terrain de mon voisin. Donc, c'est une très bon début de journée pour mes relations... dans le voisinage.
Mais sinon, ça va bien. C'est peut-être mieux de ne pas le dire en ondes pour tes assurances, peut-être.
Non, ça s'est réglé avec un pumpkin spice latte. Là, tout va bien.
Ah bon, mais...
Mais si ton voisin savait que tu es une méga star, peut-être que ça changerait la donne.
Mais quand ils ont vu mon hoodie du Canada, ils se sont dit « Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? » Puis j'ai pu commencer à parler de la Billie Jean King Cup. Ça a détendu l'atmosphère.
Mais quel magnifique lien, Hugues. Aujourd'hui, justement, on va faire un petit aperçu de ce qui s'en vient pour le Canada dans cette première phase de la finale de la Billie Jean Cup, excusez-moi. Et on a des clips pour vous. On a parlé également à Alexandra Wozniak, qui est la joueuse qui a joué le plus de Fed Cup à l'époque. Elle va se joindre à nous un peu plus tard. Messieurs, dans un premier temps, avant qu'on tombe dans une analyse plus précise, parce qu'on va faire l'état des forces en présence, est-ce que c'est une compétition que vous êtes content de voir arriver, Nico?
Oui, parce que ça demeure du tennis. En tant que fan de tennis, on aime consommer de ce sport-là. Je mentirais si je disais que c'est ma compétition préférée, mais la formation canadienne m'intrigue beaucoup. C'est ce qui m'attire cette année. Rebecca Marino, Françoise Abanda, Carole Jao, Gabriela Dabrowski. Pas des joueurs qu'on est habitué de voir, surtout que Bianca et Lella ne seront pas là. On le répétera jamais assez. Mais cette formation m'intrigue beaucoup. Dans le pool dans lequel elle se retrouve aussi, je suis intéressé cette année par cette compétition. Par la formation canadienne, ça me donne le goût de regarder puis de voir à quel point nos Canadiennes, en fait, à quel point le Canada a de la profondeur. C'est plus ça cette année-là, je pense, qui sera le point d'orgue de cette compétition.
Hugues?
Ouais, moi, je vous l'ai déjà dit, ces compétitions-là, par équipe, par pays, me plaisent beaucoup. Historiquement, c'est des trophées très convoités, très importants pour plusieurs nations. La France, notamment, qui est une grande nation de tennis, a toujours mis beaucoup, beaucoup d'emphase sur la Coupe Davis et sur la Fed Cup, maintenant la Billie Jean King Cup. Moi, je suis content de voir Rebecca Marino avoir ce rôle-là pour cette rencontre-là. On en a parlé un petit peu, c'est un peu une récompense pour une année de retour pour elle. Puis moi aussi, ça m'intrigue beaucoup de voir ce qui va se passer sur une surface intérieure rapide qui devrait l'avantager. Donc, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer. Donc, je suis très... j'ai vraiment hâte de regarder ces matchs-là. Par contre, encore une fois, dans un calendrier un peu bouleversé depuis un an et demi, il y a des joueuses qui vont manquer pour certains pays, donc c'est encore une formation, une composition, je dirais, atypique pour cette année. Là, on regardait au niveau de l'Espagne aussi, donc ça va être une année bizarre. Je pense que ça ouvre des opportunités pour certains pays, donc j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer cette année à la Billie Jean King Cup.
Nico et Abraham, est-ce que c'est une compétition que vous suivez régulièrement à chaque année?
C'est la première fois que le format est comme ça. Donc, moi, c'est sûr que je vais suivre ça parce que en 2019, on l'a vu avec les hommes à Davis Cup. C'était le Canada a fait des flamèches. Hein, mettons. On a profité du format utilisé. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir avec le Canada. Là. C'est sûr qu'avec Bianca et Leila qui sont absentes, ça va être plus difficile. Je ne sais pas ce que Nico en pense.
C'est ça. T'sais, moi, j'ai hâte de vraiment voir parce que on est habitué dans le circuit professionnel de voir vraiment, comme Hugues a dit, un côté individuel. Moi, j'ai hâte de vraiment voir, comme avec ce couple-là, le côté avec équipe. C'est cet événement-là, il priorise ça, puis j'aime ça, moi, voir ça. Un événement qui priorise vraiment le format d'équipe.
Oui, exact. C'est un format qui est différent, qui est intéressant. Moi, j'aime bien la nouvelle formule. Comme vous dites, on l'a testé d'une certaine manière à la Coupe Davis et Quant à moi, c'est une formule qui se tient. Messieurs, on va faire l'analyse des forces en présence aujourd'hui. On va principalement parler du Canada, de la France et de la Russie, de la Fédération de tennis de Russie, parce que bon, ce sont les deux premiers adversaires du Canada dans la phase de poule. On a fait des entrevues tout au long de la semaine avec Sylvain Pruneau, Marie-Ève Pelletier. J'ai parlé à deux joueuses aussi. Et ces entrevues-là seront disponibles, sont déjà disponibles sur toutes nos plateformes médias sociaux et vous allez pouvoir les écouter en intégrale. Mais je vous propose, en commençant, j'ai parlé au capitaine en début de semaine passée avant qu'il parte pour Prague et je vous offre quelques secondes de cette entrevue qui a duré une dizaine de minutes. Le Canada se retrouve dans une phase de groupe avec la Fédération française de tennis et la Fédération russe de tennis. Parle-nous un peu de ces adversaires-là. À quoi tu t'attends de ces deux pays-là qui sont quand même deux bons pays là, dans le monde au tennis?
Ben, c'est sûr. Quand tu arrives dans cette... on a eu une invitation de dernière minute, le Canada, la Hongrie qui devait avoir le tournoi s'est retirée. Et puis, on a eu la place de la Hongrie qui avait un laissez-passer. Donc, c'est sûr que la France, la Russie, ben, c'est des puissances au niveau du tennis. Et donc, peu importe, honnêtement, quel pays t'affrontes quand tu es dans cette compétition-là, tu sais que tu vas avoir quand même une bonne compétition vive de tes adversaires. Et dans notre cas, ben, c'est sûr qu'on arrive privé quand même de trois joueuses. On a Bianca qui n'est pas présente, Leila et Eugénie Bouchard. Néanmoins, on a une bonne équipe avec des filles qui jouent très bien à l'intérieur. Donc, j'espère là, qu'on va être capable de tirer notre épingle du jeu malgré tout.
La France est la mieux classée dans le ranking de la Billie Jean King Cup. Mais jusqu'à quel point les classements, ça veut dire quelque chose et pas dire grand-chose en même temps dans ce genre de compétition-là?
Ben, c'est ça. Le classement, c'est parce que tu ne sais jamais quelle formation qui va se présenter. C'est-à-dire que tu as un pays a un classement, mais est-ce qu'il va arriver avec toutes ses meilleures joueuses ou il va arriver privé de deux ou trois joueuses? Donc, le classement, en fait, je ne m'en fais pas trop avec ça. Mais je sais quand même, j'ai regardé la formation, la Fédération française puis la Fédération russe, puis c'est clair qu'on va avoir des très, très bons matchs puis il va falloir très bien jouer.
Bon, on va le voir tout à l'heure, là, c'est quand même particulièrement du côté des Russes, à mon avis, là, ça risque d'être assez compliqué. Mais disait que le Canada, bon, quand même, a des joueurs qui vont bien jouer sur dur. La formation du Canada sera composée de Rebecca Marino, François Sabanda, Gabriela Dabrowski et Carole Jao. C'est quand même intéressant parce que Carole Jao, elle a joué beaucoup dans ce type de format-là par équipe. Rebecca Marino, c'est une... elle a eu d'excellents résultats cette année. François Sabanda, c'est peut-être un peu l'énigme dans cette équipe-là, n'est-ce pas, Nico?
Assurément, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu jouer. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas joué elle-même de grands matchs. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner, mais je pense tout de même qu'elle est bien entourée. Puis je pense que c'est la force de cette équipe-là. Des leaders comme Marino, comme Dabrowski, je pense que ça ne peut être que positif dans le cas de François Abanda. Puis oui, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, mais je suis confiant. Elle est bien entourée. Elle a l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Je pense que ça ne peut que bien aller pour François.
C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu jouer, enchaîner des matchs de façon régulière parce que, bon, on l'a vu quand même à l'Omnium Banc National. D'ailleurs, elle avait chauffé Caroline Garcia qu'elle va revoir dans cette compétition-là. Alors ça, il ne faut pas l'oublier. J'y ai parlé à Françoise Amanda et je dois avouer, tu sais, ça fait longtemps que je la connais, là, Françoise. Ce n'est pas la fille qui aime le plus jaser en entrevue. Elle a été super ouverte. Je vous invite à écouter l'entrevue intégrale. Mais je lui ai demandé, qu'est-ce que ça représente, ce genre de compétition-là? Peut-être pour relancer ta saison, peut-être même ta carrière. Voici ce qu'elle a répondu.
Oui, je me sens bien. J'ai fait un retour au jeu à l'Omnium Banque Nationale cet été à Montréal. Ensuite, j'ai enchaîné plusieurs tournois. Mais c'est vrai qu'avant ça, je n'ai pas énormément joué de tournois. J'ai joué moins de 10 tournois cette année. Alors, ce n'est pas énorme, mais c'est une compétition parfaite pour moi pour aller chercher plus de matchs contre des top joueuses. Sinon, personnellement, je me sens super bien. J'adore la surface ici. Et on joue sur la surface dure, ce qui va très bien avec mon jeu. Ouais, rien de particulier. Après, c'est sûr que je suis à la recherche de matchs, je suis à la recherche de tout ce que je peux aller prendre. Donc, j'en profite cette semaine pour aller essayer de prendre la victoire, mais surtout donner le meilleur de moi-même, puis tu vois, aller chercher plus de matchs pour que ça m'aide à long terme dans ma carrière.
Alors, l'entrevue, elle est disponible intégrale. Je pense que c'était quand même des propos assez intéressants de Françoise parce que justement, bon, elle disait bon, c'est vrai que j'ai pas joué beaucoup, c'est vrai que j'ai peut-être besoin de relancer d'une certaine manière ma carrière. Hugues, t'as pensé quoi de ça?
Oui, je pense que, écoute, moi, cette équipe-là, on le disait, elle est très intrigante et je pense que le format pourrait faire de nous un joker dans ce pool-là parce que Françoise, sur un événement qui est plus court, qui a une énergie différente d'un tournoi régulier, je pense qu'elle peut aller chercher des performances contre les meilleures joueuses. Donc, je pense que nos rencontres contre Alizé Cornet, notamment, qui va être la leader de l'équipe, on pourrait aller chercher un point en simple plus rapidement qu'on pense. Donc, moi, je crois beaucoup. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Je pense que c'est les deux filles peut-être les plus reposées aussi. Donc, évidemment, c'est pas les mieux classées du côté féminin, mais je pense qu'on pourrait aller causer une surprise là, contre la France, qui est numéro un classement, comme on l'a dit. On est 10e au classement mondial donc de la Billie Jean King Cup. Donc, on va être le non-favori pour cette rencontre-là. Mais n'oubliez pas que le retour de Sylvain Bruno, Sylvain qui a été coach de 2010 à 2018 sans arrêt, 16 et 9 sont ses résultats. Ça affiche, donc c'est vraiment excellent. Donc, encore une fois, ça va être vraiment, vraiment étonnant, je pense, ce qui peut se passer contre la France. Mais n'oubliez pas qu'on joue contre le champion en titre et la France n'a aucune défaite depuis les demi-finales de 2018. Donc, moi, je trouve que la table est mise pour vraiment deux journées très, très excitantes qui s'en viennent.
Et les gars, juste pour terminer sur Abanda, Alex, tu me permets, je pense aussi que pour elle, outre le plan purement tennistique, je pense que c'est une belle occasion pour elle de renouer avec le public canadien et québécois. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, comme je le disais, même qu'il y a des gens qui pensent peut-être qu'elle a arrêté de jouer parce que suivez moins le tennis, mais je pense que pour elle, si elle peut récolter une victoire, si elle peut bien jouer, si on peut la voir dans les bulletins sportifs, je pense que c'est une belle occasion pour elle de retrouver ce public-là qui l'attendait. Il faut se rappeler, les gars, il y a quelques années, là, Françoise, là, c'était l'une des meilleures prospects au monde, au Canada, du moins. On l'a un peu perdu de vue. Et là, je trouve, pour elle, c'est une superbe occasion à saisir, vraiment.
Écoute, pour te mettre en perspective, te souviens-tu l'année chez les juniors où Eugénie Bouchard avait atteint, elle avait remporté Wimbledon chez les juniors? Françoise Abanda est en demi-finale, mais 2 ans plus jeune. Ça donne le genre de niveau qu'elle avait, là, Françoise. Et tu sais, on en a parlé ensemble, puis j'invite vraiment les gens à écouter l'entrevue au complet. Là. On ne le fera pas dans cette émission-là pour ne pas alourdir l'émission, mais elle a été vraiment ouverte sur ce qui s'en vient pour elle et comment ça a été. Vraiment, je l'ai senti beaucoup plus, bon, c'est ça, ouverte que d'habitude. Et tu parlais tantôt que le Canada peut être un joker. Françoise peut être un joker à l'intérieur du Canada. Puis comme je disais, on l'a vu contre Caroline Garcia à l'Omnium Banque Nationale. Elle l'a chauffée et elle sait qu'elle peut la battre. Tu sais, Caroline Garcia, elle n'arrivera pas avec une pleine confiance s'il faut qu'elle affronte Françoise Abanda parce que, c'était quoi le score? C'était 7-6-6-4.
C'est ça.
Tu sais, merci Nico, merci Abraham. Voilà, tu sais, c'est elle n'a pas été déclassée et c'est le genre d'adversaire que, dans un contexte de foule, de compétition, Françoise, elle carbure à ce genre de compétition.
Puis aussi, dans mes souvenirs, là, ça fait longtemps que je regarde ça, mais chaque fois qu'on a regardé la Fed Cup, que ça s'appelait avant, Françoise était tout le temps vraiment compétitive. C'était difficile, je le contrais, dans le contexte d'équipe canadienne, tout ça. Je trouve qu'elle joue tout le temps vraiment bien. Donc, on peut avoir des surprises, surtout avec Caroline Garcia, si je voulais dire. Ouais. C'était à l'Omnium Banque Nationale. Là, c'était un match vraiment serré, puis on en avait parlé au podcast. Elle a failli faire une surprise.
Non, exact. Ben, moi, je me souviens de Françoise Abadé il y a quelques années. C'était, on venait tout juste, je pense, d'inaugurer le stade IGA, là, puis on avait joué, on avait une fête cup et c'était Eugénie Bouchard et Françoise qui avaient représenté le Canada. Et puis Françoise, elle avait été dominante, elle avait porté l'équipe sur ses épaules. Eugénie avait très bien joué aussi. Puis en plus, c'était dans un moment où Eugénie allait un peu moins bien, puis elle avait comme eu un sursaut. Et c'est ce genre de compétition-là porte à ce genre de sursaut-là. T'en as souvent des surprises de ce genre-là. Alors, François, ça peut certainement être un joker. Messieurs, j'ai parlé aussi à Rebecca Marino et je lui ai demandé, bon, vous savez comment elle est bonne, Rebecca, toujours en entrevue. Je lui ai demandé, là, Rebecca, dans les derniers mois, tu as quand même eu de très bons résultats. Tu es la joueuse la mieux classée dans cet affrontement-là pour le Canada. Est-ce que ça ajoute de la pression d'une certaine manière, parce que maintenant on sait à quel niveau tu peux jouer. Tu sais, quand tu étais 300e mondial, c'était une autre chose. Maintenant, elle est parmi, bon, elle est en train de revenir parmi l'élite du tennis. Voici ce qu'elle a répondu.
Oh gosh, well, I mean, I don't really feel the pressure at least. I mean, I put the pressure on myself to begin with. And you know, I was really proud that everyone could see a special moment like that at the Omnium Banque Nationale. So I just want to keep proving that I'm there and that my level's there. And if there's a little pressure, so be it. It's a good type of pressure.
Alors, je pense qu'il n'y a pas meilleure réponse que ça. Elle dit, de toute façon, moi, la pression, c'est celle que je me mets sur les épaules. Il n'y a personne qui me met plus de pression. Et puis, je pense qu'elle est contente quand même de pouvoir représenter le Canada. J'ai parlé avec elle également du fait que, bon, ben c'est toujours ça, elle a tellement une belle histoire, mais si on remonte il y a quelques années, jouer à nouveau pour représenter son pays, ça aurait pu être quelque chose de pratiquement impossible. Alors, elle m'a dit à quel point elle était fière de ça. J'invite les gens, une fois de plus, à aller écouter l'entrevue. Et puis, messieurs, nous, ben, on a parlé à Marie-Ève Pelletier. On lui a parlé de Rebecca Marino. Voici ce qu'elle avait à dire sur Rebecca Marino.
Oui, je pense que Rebecca, justement, tu sais, je l'ai vue cet été, elle est venue s'entraîner avec quelques joueuses du centre, là, des juniors, puis... Elle était tellement fun, elle apportait des points, elle essayait de les aider, elle leur disait de se mettre à l'aise pour y poser des questions si jamais elle pouvait les aider. Donc, tu sais, on sait qu'elle a fait une pause du tennis pendant un moment, fait que c'est tout un plaisir pour elle d'être de retour sur le circuit. Puis là, maintenant, de faire partie de l'équipe, je suis sûre qu'elle est extrêmement contente. Je suis persuadée qu'elle va apporter une belle ambiance là, à l'équipe et mettre les filles à l'aise. Tout le monde sur l'équipe a déjà joué, se connaît depuis un bon moment. Donc, je pense que l'esprit d'équipe va être bon. Puis, c'est sûr qu'elle s'attendait peut-être pas à être la mieux classée dans l'équipe là, en simple avec l'absence, comme tu disais, de Bianca et Leila. Mais j'ai bien hâte de voir le tennis qu'elle peut apporter parce que sur dur, à l'intérieur, elle peut, tu sais, avec son service, on l'a vu cet été à Montréal, elle est capable, tu sais, elle a battu Badoza, justement, qui vient de remporter Indian Wells. Donc, t'sais, elle peut neutraliser plusieurs filles, puis il suffit d'une victoire d'elle, puis une victoire en double avec Dabrowski, qui aussi est quand même dans le top 10 du double, puis pour causer la surprise. Mais je pense surtout qu'il ne faut pas se mettre de pression. Elle est là comme en tant que négligée, puis que ce soit justement les filles, ben là, dans les adversaires là, qui se mettent la pression sur les épaules, qu'elles doivent aller gagner ces matchs-là, qu'elles n'ont pas le droit de perdre. Puis de notre côté, ben, prendre plaisir, puis c'est ça, tout laisser aller, puis en espérant que ça soit assez pour aller chercher les victoires et les surprises.
Alors, des propos très sages de Marie-Ève Pelletier. Elle aussi, elle est incroyable en entrevue. Alors, bon, je pense que le Canada a quand même des chances légitimes. On va regarder les équipes adverses dans quelques secondes, minutes, là, mais je pense que quand même, on peut partir avec une certaine confiance avec Rebecca Marino. Le format avec deux matchs en simple et le match en double aussi peut avantager le Canada parce que l'une des cartes qu'on a, messieurs, c'est Gabriela Dabrowski en double, qui est l'une des meilleures joueuses de double au monde. Et ça, Nico, ben, ça fait toute la différence.
Ben oui, Dabrowski, on l'a vu cet été à l'Omnium Banque Nationale. C'est l'une des, je dirais, l'une des trois meilleures joueuses au monde. Corrigez-moi si je me trompe, mais en double, Dabrowski est craint par tout le monde sur le circuit. Et on le sait, dans ce genre de compétition, j'apprendrai rien à personne en disant que le double est ultra, ultra important. Quoique sous-estimé, mais non moins important. Parce que c'est dans ce, souvent, puis Marie-Ève l'expliquait aussi dans l'entrevue intégrale, c'est souvent lors des matchs de double que les tournois se jouent. Parce que ce sont les matchs les plus serrés, les derniers matchs sur le calendrier. Fait, avoir une Dabrowski dans une équipe comme ça, c'est un peu avoir Daniel Nestor dans son équipe. Vous me suivez, les gars, dans le sens où oui, on n'en parle peut-être pas assez, mais Dabrowski et Nestor sont parmi les plus grands joueurs de l'histoire du tennis canadien en double. Ben, en fait, en général, le point final. Donc oui, d'avoir une Dabrowski dans sa manche, ça ne peut qu'être avantageux pour l'équipe canadienne.
Ouais, puis imaginez cette équipe, si c'est celle-là que Sylvain Bruneau décide de former, de Rebecca Marino avec Dabrowski. Le double, vous le savez, au niveau tactique, ça se joue beaucoup au service et à la volée. Donc là, avec le service de Marino, le niveau technique, tactique et stratégique de Dabrowski en double, on a une sacrée équipe en double. Donc, il n'est pas habitué de jouer ensemble sur le circuit. Donc, ça va être un peu une surprise pour nos adversaires aussi. Donc, encore une fois, on a un mix de joueuses vraiment, vraiment intéressant. Et moi, j'aimerais pas affronter Dabrowski Marino en double, je peux vous dire ça.
Ouais, puis même à la base, oui, on parle de la puissance, excuse Alex Hugues, de Marino, mais Marino a aussi beaucoup joué en double. Ouais. A aussi beaucoup joué en double, donc elle connaît les tactiques. C'est pas seulement une joueuse qui a un gros service qu'on se dit « OK, elle pourra peut-être s'acclimater au double ». Elle est, à la base, une excellente joueuse de double. Fait que oui, ce duo-là, on va faire le portrait des équipes. Honnêtement, je vois pas vraiment de meilleur duo que Marino et Dabrowski, du moins dans le top 10. Honnêtement, ouais. Là, ça promet, ça promet.
Écoute, j'ai essayé d'aller aux informations avec Marino et avec Sylvain Bruneau, évidemment. Aucun des deux a voulu nous révéler les cartes. Mais écoute, je vais te dire ce que je pense qui va arriver. Je pense que le premier choix de Sylvain, c'est effectivement Rebecca Marino et Gabriela Dabrowski dans le double. Par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez, messieurs, mais sûrement pas que vous en souvenez pas parce que vous n'étiez pas là avec Sylvain Bruneau. Mais Sylvain m'a dit que... par contre, il allait voir comment les matchs allaient se dérouler. Alors, peut-être que sa première idée, c'est ça, mais si Rebecca, je sais pas, se sent fatiguée ou peut-être que ça pourrait changer la donne. Et l'autre chose qu'il faut ajouter pour le double, c'est que Carole Jaot, elle a joué beaucoup de doubles dans la NCAA. Faut pas oublier ça, là. C'est une fille qui connaît ce genre de compétition-là par équipe, ça ressemble étrangement à ce qui... ce qui se passe du côté de la NCAA. Nico et Abraham, vous pensez quoi, vous, de façon générale, de la puissance du Canada?
Moi, je pense que malheureusement, ça va être sûrement difficile, mais comme j'ai dit tantôt, c'est un tournoi où il y a beaucoup de surprises. Tu sais, on affronte la France, qui est les derniers champions, sous l'ancien format, mais ça va être quand même très difficile. Ils ont une super équipe avec Cornet, Garcia, qui sont très expérimentés. Puis deux jeunes avec Burel et Ferro qui sont des surprises aussi. Mais ouais, ça va être difficile contre la Russie aussi. Fait que on se croise les doigts pour un bon résultat, mais ça va être une grosse tâche.
Ben, puisque les boys nous ont amenés, allons voir les adversaires du Canada. Bon, le premier adversaire, ce sera la France. Composé de Cornet, Garcia, Burel et Ferro, comme tu le mentionnais. C'est une équipe qui est entraînée, il faut le mentionner, par Julien Beneteau, qui a beaucoup d'expérience sur la circuit ATP, qui a joué beaucoup de Coupe Davis pour la France. Et c'est l'entraîneur qui a aussi mené la France à la victoire l'an passé. La bonne nouvelle dans le cas pour le Canada, c'est que Kristina Mladenovic n'est pas là, qui aurait probablement été leur meilleure joueuse et qui est une excellente joueuse de double également. Là. Garcia et Cornet seront les joueuses les plus dangereuses du côté de la France. Garcia était partie prenante de cette équipe victorieuse là, l'an passé. Messieurs, on s'attend à quoi de la France? Une équipe avec un bon mélange d'expérience c'est une équipe qui est très, très bien balancée en dépit du fait que Mladenovic n'est pas là.
Ouais, moi je pense qu'ils vont arriver en pleine confiance, donc l'équipe du capitaine Julien Beneteau. Et c'est peut-être ça qui va jouer en notre faveur. Moi je pense qu'ils arrivent là très 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 confiants. Ils disent bon, ok, Leila est pas là, Bianca est pas là. Ils ont l'expérience, évidemment. Je pense qu'elles sont assez matures pour être prudentes, mais ils vont peut-être pêcher un peu par excès de confiance. C'est peut-être un souhait que j'ai en ce moment. C'est certain que c'est une excellente équipe. Ils sont sur une lancée, comme je vous le disais, depuis 2018, depuis les demi-finales en Fed Cup, où ils n'ont pas perdu un match, un tie. Donc, on verra ce qui va se passer. Mais encore une fois, Alizée Cornet est connue aussi pour ses sautes d'humeur, son tempérament un peu bouillant, et elle peut échapper à un match des fois au niveau mental. Donc, encore une fois, dans cette situation-là, tu joues pour ton pays, c'est une énergie qui est différente et on a des joueuses qui peuvent les déranger, même si c'est pas nos meilleures joueuses. Moi, c'est, encore une fois, ça peut être vraiment surprenant, mais la France arrive largement favorite dans ce taille-là, mais ça va jouer sur le terrain, comme on dit.
Ah ouais, toi, tu vois, bon, dans un match Canada-France, tu les vois largement favoris. Moi, je les vois favoris, mais je pense que si je suis la France, je ne suis pas si nécessairement confiant que ça parce que, bon, je sais que le double n'est pas gagné d'avance, ça, c'est certain. Mm. Et puis, bon, quand on regarde le match-up entre Françoise et Garcia, bon, c'est pas fait, ça, non plus. Je veux dire, elle l'a chauffé. Je te dis pas que Garcia va pas faire un 6-0, 6-2. Ça, c'est possible aussi, là. Mais, tu vois, moi, je suis peut-être je veux pas dire pessimiste, mais c'est un peu ça. Nico, tu vois ça comment?
Je pense que l'avantage du Canada, c'est justement cette espèce d'aspect de nouveauté, de méconnaissance. C'est-à-dire que, vous savez, comme moi, lorsqu'on pense à un sport, je ne sais pas, comme le football, où il y a un corps arrière recrue, c'est difficile pour les équipes de l'analyser parce qu'il n'y a pas de bande vidéo, il n'y a pas de cassette, il n'y a pas tant d'expérience. Donc, lorsqu'on est la France et qu'on se dit « comment elle joue, Carole Jao? » Difficile de le savoir parce que, mis à part ces matchs universitaires, il n'y a pas beaucoup de bandes vidéo, pas beaucoup de cassettes analysées. Même chose pour Françoise Abanda qui n'a pas joué beaucoup au cours des dernières années. Rebecca, oui, elle est revenue en force cette année, mais outre ça, c'est mince. Fait que je pense que l'effet de surprise va être un avantage pour le Canada. Moi aussi, je pense que la France demeure quand même favorite, mais cette espèce d'aspect de nouveauté et de méconnaissance peut jouer, je pense, contre la France.
Exact, exact. Puis Alex, je disais ça parce que si on regarde purement le classement, et vous savez que j'aime bien quand on fait des poules, y aller par classement, habituellement, ça marche bien, n'est-ce pas? Et là, c'est donc on est dixième au classement de la Billie Jean King Cup contre la France, qui est première et championne en titre, comme on le disait. Mais on est dixième avec notre équipe A, habituellement. Donc là, on arrive au dixième rang avec notre équipe, qui n'est pas l'équipe A, mais ça va être l'effet de surprise qui va faire qu'on va peut-être surprendre durant ce match-là. Mais c'est sûr que la France, moi, je le pense, sérieusement, va arriver. Oui, ils doivent se dire « attention, c'est un piège et tout ça, on sait comment ça marche dans le sport », mais je pense qu'ils arrivent avec beaucoup de confiance. Donc, encore une fois, je pense qu'on peut créer une surprise.
Et les gars, dans cette espèce d'étude de l'adversaire, oui, la France nous a peut-être pas étudié comme il le fallait parce que, comme je l'ai expliqué, mais de notre côté, je pense que s'il y en a un qui s'est empêché de dormir pour étudier les bandes vidéo de la France, c'est Sylvain Bruno.
Garanti.
S'il y en a un qui est méticuleux, s'il y en a un qui est précis, ouais, qui est rodé pour affronter cette équipe-là, c'est Sylvain Bruno. Puis je pense que d'avoir ça dans notre manche, c'est le plus gros avantage, je pense, dans cette compétition.
Ouais, puis aussi la capitaine, normalement, Heidi El Tabak, que selon moi, elle a travaillé fort aussi, même si elle n'a pas
besoin. Dans les coulisses, sûrement, oui.
Et messieurs, je regardais les affrontements entre les Canadiennes et les Françaises qui pourraient s'affronter. Il y a peu d'affrontements significatifs parce qu'il y a beaucoup d'affrontements qui remontent à vraiment loin. Et le seul, en fait, la plupart des affrontements remontent à 2010-2011. Alors, il ne faudrait pas trop voir là-dedans. Le seul affrontement récent entre les joueuses françaises et canadiennes, c'est l'affrontement dont on parlait entre Françoise Abanda et Caroline Garcia. Bon, ben. C'est intéressant ça, messieurs, et bon, tu fais bien de souligner. Hey, juste une petite chose que je vais ajouter sur Carole Jao, parce que vous savez que c'est une championne junior en double, et c'est aussi une championne en double à Grimby. J'espère que tu te souviens de ça, Abraham.
Je te dirais que faudrait que je fouille dans ma mémoire. Là.
Ben voilà, c'est pour ça que je suis là, mon,
dans quelle année?
Mon jeune garçon. Ça doit être autour de 2013-2012. Ah ouais.
Je suis arrivé en 2015. Moi.
Vérifie donc en attendant. Voir si ma mémoire n'est pas si mal.
Je le répète, 2013. Tout commence à Granby. Hein. N'oubliez pas les performances de Eugénie Bouchard, championne, Abanda, Bianca, Leila, Carole Zao, c'est notre tremplin canadien année après année, le Challenger de Granby.
Effectivement, c'est en 2013.
Eh hey, messieurs, hein? Pas si mal.
Très solide.
Bravo. En 2014, ils ont été finalistes.
Ouais, voilà, je me souvenais de ça. Alors, tout ça pour dire que c'est aussi une Mondeuse de double. C'est pour sous-entendre que ben, c'est une option viable et non pas, un remplacement de dernière minute qu'on serait obligé de mettre là. C'est une option qui est très, très, très viable dans le cas de Carole Jao. Bon, on verra qu'est-ce que ça va donner contre les Français. Contre les Russes, messieurs, bon, j'ai l'impression que ça va être encore plus compliqué. Là. À mon avis, à moi, les Russes sont plus forts que les Françaises. Quand on regarde l'équipe là, rapidement, Pavlyuchenkova, bon, elle a fait la finale à Roland-Garros. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ce ne sera pas sur terre battue. Daria Kazatkina, bon, elle a remporté des tournois cette année, les 28e mondiales. Ça va être compliqué. Kudermetova, elle aussi, elle a remporté des tournois cette année. Elle a remporté Charleston. Bon, Charleston, la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi un tournoi sur terre battue. Mais ouais. À noter que Kudermetova, elle a gagné à Istanbul en double et ouais. Elle a fait la finale en double également. Alors ça, c'est une excellente carte des Russes. Alexandrova va être là aussi, Samsonova aussi. Samsonova, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, là, elle avait remporté un tournoi plus tôt cette année alors qu'elle était qualifiée. Là. Alors, les Russes, messieurs, ça va ouais. être tout défi à commencer par Pavlyuchenkova, Hugues, ton
fameux. Ben, elles arrivent avec 5 joueuses du top 50. Là. C'est peut-être l'équipe la plus équilibrée, avec le plus de profondeur. Et au niveau du classement, encore une fois, les chiffres parlent. Donc, effectivement, ça va être une équipe très, très dure à jouer. Mais tu as touché à l'aspect de la surface. Donc, Pavlyuchenkova, qui est leur meilleure joueuse sur l'équipe, qui est une spécialiste de terre battue, va jouer contre le Canada, qui adore jouer en indoor. On est un pays de indoor. Il faut jamais oublier ça. On a tout de suite bien performé sur les surfaces très rapides parce qu'on joue beaucoup à l'intérieur pour des raisons climatiques, évidemment, au Canada. Donc, je pense que c'est un élément qui va nous donner un petit avantage au niveau de la surface. Mais l'équipe de Russie est vraiment très, très équilibrée. Beaucoup de profondeur, 5 top 50. Ça va être difficile.
Honnêtement, cette équipe-là pourrait aller jusqu'au bout.
Ouais.
Aurait les moyens de la façon dont elle est formée et de la façon dont la compétition présentement la distribution des joueuses, c'est une équipe qui pourrait aller jusqu'au bout. Nico, tu les vois comment, les Russes?
Ouais, mais je pense qu'au-delà d'être ultra talentueuses, tu l'as bien nommé, tu l'as bien expliqué, elles sont rodées. Elles ont toutes connu une bonne année. Elles ouais. ont toutes un certain momentum, ce que le Canada n'a pas nécessairement, mis à part Marino et Dubrovski. Donc, je pense que ça va se jouer là. La clé de ce tournoi-là, c'est des matchs, ce sont des enchaînements. Ce sont des matchs à haute intensité qui se succèdent rapidement. Donc, je pense que cette question-là du momentum puis de la machine qui est rodée est nettement à l'avantage des Russes.
Et messieurs, je vous parlais de Samsonova, je me souviens parce qu'on en avait parlé au podcast, elle, à Berlin, justement, là, c'est ça, elle avait remporté Berlin, elle était qualifiée. Dans ce tournoi-là, elle avait battu Vondrousova, Kudermetova, Madison Keys, Victoria Azarenka et Belinda Bencic. C'est une fille qui peut battre les meilleures joueuses au ouais. monde et c'est peut-être la troisième joueuse, alors elles vont être dangereuses, les Russes. Et comme je le disais, Pavlyuchenkova, elle a connu, peut-être la meilleure saison de sa carrière. Elle est la finaliste. Nico et Abraham, est-ce que les Russes, vous êtes d'accord avec Nico et Hugues que c'est l'équipe à battre dans le groupe A?
Exactement. Écoute, ça va être difficile. Puis les Russes, on peut passer du côté masculin. Ils ont gagné la Coupe ATP au début de l'année. Les Russes sont tout le temps fiers de représenter leur pays, puis ça paraît, même si maintenant, cette année, ils représentent la Fédération tennis de Russie, mais bon, ça va être difficile, plus que la France, au moins.
Exactement. On va faire.
Et on verra. Et s'il y avait un affrontement France-Russie, messieurs, vous miseriez sur qui? Pas si, il va y en avoir un, là. Sur la Russie également?
Un peu la même chose. Je pense que la profondeur de l'équipe russe leur donne un petit edge. Mais encore une fois, la France et la Fed Cup, c'est une relation intime, historique. Donc, ils vont là pour gagner. C'est pas des figurantes. Mais ça va être le plus gros match-up là, entre la France et la Russie. Je donnerais un petit avantage à la Russie pour ce qu'on vient de dire précédemment.
Messieurs, avant qu'on passe à Alexandra Wozniak qui va nous rappeler quelques souvenirs de la Billie Jean King Cup/Fed Cup, je vous demande une prédiction dans le groupe A. Qui sortira gagnant? Dans quel ordre? J'ai une bonne idée déjà avec la discussion qu'on a eue. Là. Nico, mettons, en commençant.
Je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller avec les Russes pour la première place. Canada-France, ce sera ultra, ultra, ultra serré. Je vais quand même donner un petit avantage au Canada. Pourquoi pas? Cette espèce d'effet de surprise, cette chimie, Sylvain Bruno. Donc, Russie, Canada, France.
Même chose. Je pense que le Canada va surprendre la France. Donc, je mets Russie en tête du groupe. Canada deuxième, France troisième.
Nico et Abraham.
Vas-y. Moi, je pense que j'encourage la France cette année. La France va gagner le groupe. Ouais. Avec la Russie deuxième, et ça va être vraiment difficile pour le Canada. Là. Même s'ils se forcent, ça va être vraiment difficile. Fait que dernier du groupe.
OK, mais juste pour être sûr que je comprenne bien, là, dans le match Canada-France, est-ce que tu vas avoir un chandail tricolore ou tu vas avoir un chandail rouge et blanc?
Ben, je peux porter mon chandail du Canadien.
Belle porte de sortie, mais tu dis je vais encourager la France. Est-ce que tu vas quand même encourager le Canada en premier?
Oui, j'encourage le Canada en premier, mais relativement, je pense que la France va être une très bonne équipe cette année.
Stimuler ton patriotisme un peu.
Ben moi, j'encourage le Québec, là, pas le Canada.
Bon, on ne rentrera pas dans les débats politiques.
C'est réel.
Ça brasse à Jonquière, Nico. C'est qu'il faut qu'on se dise. Ben voilà, moi je pense que ce sera malheureusement Russie, France et Canada. Avant qu'on passe à Alexandra Wozniak, Hugues, tu voulais y aller avec un petit sponsor techno.
Ouais, vous savez que je regarde tout le temps ce qui se passe d'un point de vue commercialisation, mise en marché, innovation et tout ça. Et Microsoft est un des partenaires importants de la Billie Jean King Cup. Et ils vont fournir du data et des données en temps, ils disent near real time, donc presque en temps réel, les stats avancées des matchs en cours. Donc, je pense que ça va être utile pour les équipes, mais c'est vraiment intéressant. On est dans une ère, vous le savez, de plus en plus technologique, où on peut établir des probabilités sur plein de choses. Et donc, les joueurs et les coachs auront accès à ces données en temps presque réel durant toute la Billie Jean King Cup là, pour éventuellement ajuster leur tactique en cours de match.
Est-ce que c'est l'équivalent du Watson de IBM?
Oui, exactement. Watson mise beaucoup sur l'intelligence artificielle. Là on est plus dans un mode stat avancé.
OK, je comprends. Messieurs, on a eu la chance de rencontrer Alexandra Wozniak. On s'est dit que c'était le bon timing pour pouvoir l'inviter, puisque c'est elle qui a joué le plus de matchs dans l'histoire du Canada du côté de la Fed Cup. Alors, on l'a invité, on lui a parlé, voici ce que ça a donné. Alors, messieurs, très content de pouvoir accueillir aujourd'hui, ni plus ni moins que la plus grande joueuse de l'histoire du Canada dans la compétition, la Billie Jean King Cup. Alexandra Wozniak a à peu près tous les records de la Fed Cup du côté Canada. C'est elle qui a joué le plus de matchs, le plus d'affrontements. Elle connaît le tabac, comme on dit. Alexandra Wozniak, merci beaucoup de te joindre une fois de plus au podcast Sur la ligne.
Merci de m'inviter.
Dis-moi, quand tu vois cette compétition-là arriver, là, qui s'appelle maintenant la Billie Jean King Cup, ça donne quoi comme souvenir de ton côté?
Ah, c'est un très beau privilège de jouer pour son pays. J'ai joué tellement longtemps, plusieurs années. Et je pense que les filles qui sont sur l'équipe, ils se considèrent chanceuses d'être là. C'est vraiment, pour moi, ça m'amenait une des meilleures côtés de moi-même. Je veux dire, c'est jouer en compétition. Puis le tennis, c'est tellement un sport individuel que... Moi, j'ai tout le temps adoré jouer en équipe. Là, ça amène une belle atmosphère d'équipe, puis on s'encourage, puis évidemment, on joue pour notre pays. Fait que c'est vraiment un grand privilège de jouer avant ça s'appelait la Coupe Fed, là, mais la Billie Jean King Cup.
Excellent. Tu as été, durant les années, tes plus belles années, c'était Sylvain Bruno qui était coach, qui revient coach pour cette rencontre-ci qui commence demain. Parle-nous un peu de Sylvain comme coach et ta relation avec lui. C'est un invité qu'on a souvent au podcast, qu'on aime beaucoup, puis c'est un gars intéressant. Parle-nous un peu de ta relation avec Sylvain Bruno.
Oui, absolument. Sylvain, il a beaucoup d'expérience. Il fait tellement des années qu'il est entraîneur du côté des femmes, puis être capitaine, puis coach qui est revenu maintenant pour la grande finale que les Canadiens vont jouer. Je pense que J'ai tout eu une bonne relation avec lui depuis que je suis jeune dans les juniors. Je pense que la première fois, c'était la tournée en Australie. J'avais 15 ans, fait que je le connais depuis longtemps. Puis c'est sûr qu'il était très, il est très investi, toujours bien impliqué, puis il essaie d'aider toutes les joueuses canadiennes depuis plusieurs années. Puis je pense que ce côté-là lui va à merveille en tant qu'entraîneur de la Coupe Billie Jean King.
Et Alexandra, quelle est la réputation de ce tournoi-là sur le circuit? Est-ce qu'à chaque année, les joueuses et les joueurs, vous avez hâte à cet événement-là? Comment ça fonctionne dans votre tête?
Pour moi, j'avais toujours hâte. C'est un, tu sais, comme on sait, le calendrier tennis est très chargé, mais c'était tout le temps un privilège de représenter le pays. Puis je voulais toujours être là. Même quand j'étais blessée, je jouais la coupe. Puis je pense que c'est vraiment. Moi, j'ai adoré ça. Là. C'est vraiment l'esprit d'équipe qui t'amène à te surpasser et tout ça. Parce que, tu sais, le tennis, c'est un sport individuel, comme j'ai joué. Puis c'est vraiment, t'es tout le temps tout seul à voyager la majorité du temps ou avec une petite équipe, là, dépendamment. Là, mais pour moi, j'ai tout le temps adoré jouer la Coupe Fed. Là, puis je pense que c'est pour ça que j'avais autant de victoires, là, parce que j'adorais, j'étais passionnée.
Alexandra, est-ce qu'il y a un match ou deux que tu retiens en particulier là, qui ont été spécialement marquants pour toi en Fed Cup?
Je pense qu'un des premiers matchs, c'était mon tout début quand j'ai commencé. J'ai joué, oui, au Brésil, dans le groupe des qualifications, tout ça. Ma première Coupe Fed, j'avais, je pense, 16 ans, 15 ou 16 ans. Puis, mais après ça, le premier match que je me rappelle, c'était contre la Suisse à Dorval, sur la terre battue grise à l'extérieur. J'avais joué contre Timea Bachinski. Puis j'étais tellement excitée de jouer là, cette rencontre que je me rappelle, j'avais joué vraiment du beau tennis et tout ça. C'était juste après Wimbledon, je pense. Puis après, le prochain match que vraiment, qui pour moi, c'était super important, comme toutes les coupes faites, il était important pour moi, mais celle-là que je me rappelle, c'était après ma blessure. Quand j'étais revenue de mon épaule, je pense que j'ai eu ma chirurgie. Puis j'ai joué à l'intérieur, c'était au Centre Claude Robillard, je pense. Cette victoire-là était très importante pour moi de revenir puis reprendre ma place et tout ça. Après plusieurs mois de rétablissement, c'est en physiothérapie et tout ça, c'était une grosse chirurgie là. Donc c'était une belle victoire pour moi.
Et avant de parler peut-être de l'équipe, j'aimerais qu'on parle du nom de la coupe, parce qu'avant on sait que ça s'appelait la Fed Cup, maintenant la Billie Jean King Cup. Puis Alex l'a dit souvent, selon lui, c'est la plus grande athlète de l'histoire du sport, point barre. Pour une joueuse de tennis, qu'est-ce qu'elle représente?
Je pense que c'est tout le cheminement qu'elle a fait à tracer la voie, tu sais, comment ça a commencé et tout, le circuit professionnel et tout. Puis maintenant, d'y donner l'honneur de la Coupe Fed, porter le nom de la Billie Jean King Cup, c'est vraiment, je pense, c'est spécial parce qu'on va s'en rappeler toujours de cette légende-là. Elle a commencé à tracer vraiment le chemin pour les femmes après elle.
Exact. Comment tu vois, on est très content de voir Rebecca Marino, malgré le fait que Rebecca, elle est là, que Bianca, elle est là, pouvait pas jouer. C'est quand même une conclusion géniale pour l'année de Rebecca, qui est l'année de son grand retour. Donc, elle arrive dans cette coupe-là avec beaucoup de responsabilités, mais je pense que c'est une récompense pour une belle année, on dirait, en même temps. Comment tu vois ça, son année et son rôle dans la Billie Jean King Cup cette année?
Absolument, je suis d'accord. C'est une belle récompense pour elle de revenir sur la Billie Jean Cup. La Billie Jean King Cup, j'ai le nouveau nom. Je pense que c'est une belle... c'est un beau retour, puis surtout tous les défis qu'elle a dû surpasser, surmonter, c'était vraiment pas évident pour elle. Puis je suis contente qu'il y ait de retour, puis que ça va bien sa carrière. Puis maintenant, elle a la place sur l'équipe à nouveau. Je pense que c'est vraiment... Puis elle a d'autres défis devant elle, mais je pense que c'est vraiment une belle récompense pour Rebecca.
Une autre joueuse qui est une leader dans cette équipe-là, c'est Gabriela Dabrowski, qui est une excellente joueuse de double. On le sait, tu suis le tennis comme nous. Penses-tu que les fans de tennis canadien, on réalise à quel point on est chanceux de l'avoir parmi notre équipe? Parce que oui, on parle souvent de Leila, de Bianca, mais sur le circuit du double, Gabriela, elle est immense. Penses-tu qu'on le réalise assez?
Gabriela Dabrowski, je pense que maintenant, les personnes réalisent plus parce que c'est une joueuse très importante sur l'équipe. Quand c'est 1-1 ou 2-2 en simple, puis le match, combien de fois que j'ai joué la Coupe Fed, puis il fallait que le match, il comptait pour gagner, emporter le double, puis on avait perdu plusieurs fois. Fait que je pense que c'est important que, tu sais, une joueuse aussi talentueuse et autant de succès qu'elle a eu dans les dernières années, Gabriella, joue un grand rôle au sein de l'équipe là, pour la Billie Jean King Cup.
Notre premier tour, évidemment, dans notre groupe est contre la France, les champions en titre. Comment tu vois le match-up contre cette grande nation de tennis aussi qui a souvent gagné la Fed Cup?
Oui, c'est un bel honneur, je pense, d'affronter la France pour l'équipe canadienne. Ça a été un beau défi. Puis comme on le sait tout, quand tu joues sur... quand tu as l'esprit d'équipe et tout, là, tu peux aller loin. Là, tu peux emporter des belles victoires. Tu as tout le Canada qui te supporte et tout. Puis combien de matchs qu'on a vu tellement serrés, puis ils ont emporté des fois ceux qui étaient peut-être moins favoris que l'autre équipe, ils ont emporté des gros matchs. Donc, il peut y avoir des belles surprises, là, puis rien n'est impossible, peu importe qui t'affronte comme pays à la Coupe.
Alexandra, tu sais, le tennis, c'est principalement un sport individuel, sauf dans ce genre de compétition-là. À quel point la dynamique d'équipe change la donne dans ce type de compétition pour les joueuses?
Je pense que quand tu as un mode que tu t'ajustes, tu t'adaptes, là, parce que comme tu sors de tout temps un sport individuel à un esprit d'équipe, tout ça, moi, je pense que ça l'aide énormément à la confiance, puis aussi au support et mentalement, je pense que ça fait toute une différence d'avoir un bon esprit d'équipe. C'est très important, l'atmosphère et les entraînements en équipe et tout ça, pour se ramener tout ensemble et avoir vraiment être bien préparé pour une lutte là, comme ça contre d'autres pays.
Et est-ce que ta routine d'avant-match change? Parce que je ne sais pas comment tu fonctionnais, mais j'imagine que tu es habitué d'être dans ta tête, d'être seul. Mais là, tu ne peux pas ne pas parler à tes coéquipières. Fait, comment ça fonctionne?
Oui, absolument. Comme tu dis, tu es toujours dans ta bulle et tout. Puis quand tu arrives à la Coupe Fed, à la Billie Jean King Cup, il faut que tu sois plus ouverte. Ça veut dire qu'il faut que tu t'adaptes, tu t'ajustes. Parce que là, tu as comme plein de filles avec toi. Puis là, ils sont pour toi. C'est comme la compétition est différente. Tu es en compétition contre un autre pays. Mm-hmm. Tu as plein de filles soudainement. Tu es avec tes coéquipières. Fait que tu dois t'adapter, faire une bonne transition. Puis honnêtement, moi, j'adorais ça parce qu'on était plusieurs. Fait que c'est comme un nouveau sport d'équipe où tu t'encourages tout le temps, en train de tout faire ensemble, aller au souper, dîner, t'entraîner ensemble. Vraiment, moi, ça me donnait de l'énergie là, d'être avec plusieurs filles. Là. Fait que c'est sûr, il faut que tu changes ton mindset. Là. Tu t'adaptes, puis tu sais. Mais pour moi, j'adorais tellement ça que c'était plus facile pour faire la transition d'un sport individuel à un sport comme d'équipe pour la semaine que tu vivais.
Mais toi, tu aimais ça, mais penses-tu que ça peut être difficile pour des joueurs qui sont plus solitaires de base?
Oui, absolument. Ça peut être très difficile pour certaines joueuses parce qu'ils sont habitués à faire leur routine. Tout ça, là, tu rentres, c'est comme un peu une distraction. Il faut que tu t'habitues comme un peu à travailler avec des coéquipières fait que pour la semaine. Fait que c'est pas toujours évident pour les filles.
Alexandra, dans ce type de compétition-là, on a aussi accès à un entraîneur, ce qui n'est pas le cas dans le circuit de WTA normal, enfin, à part à quelques exceptions. Là. Est-ce que c'est facile de se faire coacher par un gars ou par une fille, là, mais qu'on voit une semaine ou deux par année, là, malgré que là, Sylvain Bruno, les filles le connaissent pour l'essentiel, mais quand même, c'est pas comme si c'était un coach qui les suivait à l'année longue?
Non, c'est ça, c'est pas évident, honnêtement. Puis, ça aussi, c'est une adaptation qu'il faut que tu réussisses à faire en un court terme, juste pour une semaine. Fait que c'est pas évident toujours. Des fois, c'est comme une distraction. Ils te parlent, puis tu es habitué d'entendre une autre voix de coach. Puis là, tu essaies de, OK, ça, c'est sa manière de coacher. Il faut que tu t'ajustes aussi. Fait que c'est pas toujours évident. Puis, c'est aussi un défi qu'il faut que. Puis en tant que joueuse de tennis professionnelle, c'est vraiment notre vie sur le circuit, c'est de tout le temps s'adapter, mais rapidement, de s'ajuster aux choses, parce que sinon, tu perds du temps, puis ça nuit beaucoup à ta performance. Fait que tu dois arriver là vraiment avec un esprit ouvert, puis être prête à t'adapter à toutes sortes de situations, à un nouveau coach, si c'est ça ton cas, femme ou homme, ça ne dérange pas. Puis de jouer, être prête pour jouer avec une équipe.
Ça me fait penser, Alexandra, qu'est-ce que tu penses du coaching sur le terrain en général, là, pas seulement durant la coupe, mais durant le circuit régulier? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes, qui t'apporte quelque chose d'avoir un coach sur le terrain?
Moi, au début, c'était comme plus une distraction que je n'étais pas habituée parce que tu sais, tu fais ton plan de match la veille avec ton coach. Là, tu le revises le matin même avant ton match. Puis, tu es habitué à ça pendant des longues années avant que ce système-là, que tu puisses avoir accès à un entraîneur pendant les matchs. Puis, j'ai trouvé que moi, des fois, au tout début, il fallait que je m'ajuste. Puis, c'était plus une distraction. Tu sais, j'étais vraiment dans ma bulle. Puis, ça demande beaucoup de concentration quand tu es sur un terrain parce qu'il faut que tu coupes le bruit, des fois, de la foule. Tu l'utilises aussi en tant que te servir d'énergie. Tu as aussi, admettons, tous les facteurs. S'il fait chaud, le soleil, le vent. Fait que tu dois jongler avec beaucoup de choses. Puis, des fois, ça a pris une certaine période pour m'adapter à entendre la voix d'un entraîneur sur le terrain. Puis honnêtement, vers la fin de ma carrière, des fois, il y avait ses avantages. Tu sais, des trucs que tu as « Ah, j'ai oublié de faire ça dans le plan de match. » Fait que des fois, ça m'aidait. Puis d'autres joueurs détestent ça, puis d'autres aiment quand même ça. Fait que ces joueurs-là qui ont souvent besoin de se faire des rappels, c'est pour ça qu'ils ont vraiment ils aiment ça, tu sais. Mais quand tu as vraiment tout ton plan, des fois, ça... C'est comme ça te déconcentre, ça te distrait. Ah, c'est vrai, OK, mais des fois, c'est bon. T'sais. Fait que c'est comme, on l'utilise pas assez, je pense, pour s'adapter, s'habituer à ça. T'sais. Mais c'est ça, quand tu joues avec ton équipe et ton entraîneur, tu le sais, tu es plus ouverte, tu sais que tu auras plus d'aide puis tout ça. Fait que tu es plus consciente de ça. C'est moins, je pense, une distraction.
Alexandra, ça fait déjà un petit bout que tu es sortie du circuit, mais est-ce que tu as côtoyé Alizé Cornet? Est-ce que tu l'as déjà affrontée? Si oui, qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle?
Oui, j'ai joué, j'ai pris ma retraite le 19 décembre 2018, puis je m'en rappelle, j'ai joué longtemps contre Alizé dans plusieurs tournois, on s'est pratiqué ensemble parce que je parlais français elle aussi, fait que je m'entendais bien avec toutes les Françaises en général. Et puis, ouais, vraiment, une fille, là, avec... Elle est acharnée, elle se bat à chaque point, puis vraiment émotive. C'est ça qu'on connaît tout d'Alizé. Puis, mais elle va se battre à chaque point, puis elle veut jamais lâcher, même quand elle se blesse. Des fois, pendant le match, elle se relève, puis tout ça. Fait qu'il faut vraiment tenir... quand tu joues, il faut que ça soit un plan de match vraiment simple. Puis, tu sais quoi, ton plan de match, pour quoi faire tel moment, tout ça, contre une joueuse qui est très émotive, qui dégage beaucoup d'émotions.
Messieurs, 40 victoires, ça, c'est le plus haut total en Fed Cup, Billie Jean King Cup. Il appartient à Alexandra Wozniak. 36 confrontations. Il n'y a personne qui a fait mieux du côté canadien. Je disais précédemment qu'Alexandra avait à peu près tous les records. C'est elle qui a représenté le plus le Canada dans cette compétition-là. Merci, merci Alexandra, pour tous ces beaux moments que tu as pu nous offrir en Fed Cup et maintenant Billie Jean King Cup. Est-ce que tu vas quand même y jeter un œil? Est-ce que tu vas regarder la compétition du coin de l'œil? Parce que maintenant, tu as une petite famille et tout, tu es peut-être un peu plus occupé.
Oui, non, absolument. Je regarde toujours les filles jouer tous leurs tournois à télé, surtout maintenant. C'est tellement, ils montent souvent les différents tournois à travers le monde. C'est le fun pour ça. Puis c'est sûr, je vais regarder la Billie Jean King Cup, les Canadiennes. J'espère qu'ils vont vraiment amener leur meilleur tennis le 1er puis le 2 novembre.
Et qu'est-ce qui t'occupe ces temps-ci? Est-ce que tu es bien occupé avec ton académie?
Oui, oui, vraiment, ça va bien. On a célébré un an à l'académie avec les jeunes puis les adultes. Ça se passe super bien. J'adore ça. Partager mon vécu, mes expériences, puis les aider à amener leur jeu à un autre niveau puis les développer. Tout ça, c'est vraiment, c'est le fun à partager, là.
Et si on veut avoir tes précieux conseils, envoyer nos enfants à ton académie, comment est-ce qu'on fait?
Oh, il y a mon site web, alexandravozniak.net. Vous pouvez me communiquer là-dessus sur le site web, il y a un courriel. Puis, je suis toujours bien à vous tous.
Bien, merci beaucoup, Alexandra, d'avoir pris un peu de temps pour nous en ce début de Billie Jean King Cup. On te laisse retourner à ta petite famille et à ta préparation là, en prévision de la première journée de compétition de cette finale.
Yes, allez les Canadiennes.
Merci beaucoup.
Merci, Alexandra.
Merci à vous tous.
Bye.
Elle est toujours aussi sympathique qu'Alexandra Wozniak. Messieurs, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un joyeux Halloween. Nico et Abraham, vous n'acceptez pas les bonbons des gens que vous pensez qu'ils sont louches. Hein?
Oui, monsieur. Oui, monsieur.
C'est très important. Hugues, est-ce que la lumière sera allumée à Farnham?
Oui, mais je garde toutes les Kit Kat pour moi. Je les donne pas aux enfants. Donc, c'est déjà c'est dit, vous le savez, si vous vous présentez chez moi, je garde les Kit Kat.
Alors, je rappelle, on a passé quelques clips dans cet épisode-là. Tous les clips vont être disponibles sur nos médias sociaux, mais j'ai également publié les entrevues intégrales sur Spotify, Balado Québec, Apple Podcasts, toutes les plateformes où vous pouvez nous trouver. Nos chiffres commencent à avoir... on a une progression assez fulgurante là, dans les dernières semaines. Alors, merci à Nico et Abraham qui contribuent à ça. Merci aux gens qui nous écoutent. Merci de nous appuyer dans ce projet-là. On est assez surpris de comment les chiffres explosent présentement. Là. Alors, merci à Nico et Hugues aussi pour leur travail. Messieurs, bonne soirée, bon Halloween. Et puis, on se reparle demain alors que le Canada aura joué son premier match.
Merci, Alex.